la question, ou plus exactement les questions qui peuvent se poser, sont d'abord la question de savoir, par exemple, que peut apporter la lecture d'une ou de préfaces de dictionnaire. En dehors d'un plaisir un peu pervers, que peut apporter la lecture des préfaces de dictionnaire? Deuxième question, pourquoi constituer la préface du dictionnaire en objet d'étude? Alors, pour répondre à ces deux questions, qui sont des questions préliminaires en quelque sorte, il faut rapidement examiner la place que tiennent les préfaces dans les études générales de dictionnaires, dans ce que l'on appelle la métalexicographie. La lexicographie étant encore une fois l'art de la composition des dictionnaires, et la métalexicographie étant l'étude de cet art. Les travaux sur les dictionnaires, dont la bibliographie est assez considérable, je ne la relaterai pas ici, mais les travaux sur les dictionnaires citent souvent les préfaces comme élément important dans l'étude de l'objet. Dans l'histoire des dictionnaires que Bernard Quémada a publié en 1968 chez Didier, Histoire des dictionnaires, Quémada, dans cette histoire des dictionnaires, qui n'est pas une histoire exhaustive, mais qui va de 1540, 1530 à 1863, c'est-à-dire au début du littré, dans cette préface du dictionnaire, Quémada cite les préfaces de Boisse, les préfaces de Larousse, les préfaces de Nodier, et il analyse tout ceci en quelques paragraphes sous l'intitulé « Titres et préfaces » dans un chapitre qui est consacré aux questions de nomenclature. Mais Bernard Quémada, dans cet ouvrage, émet des avis plutôt réservés sur l'intérêt documentaire de la préface aux yeux de l'historien des dictionnaires. Il écrit « Nous avons fait de fréquentes allusions à propos des tendances extensives ou sélectives des ouvrages, sans manquer de rappeler les réserves qui s'imposent avant de leur accorder crédit. » En 1991, un article de Georges Serfaillie Apostiopèse ou suspension. Non, c'est mon fond de culotte qui se déchire. Ne riez pas, cette chaise est épouvantable. Cette chaise est un attrape-fond de pantalon, et lorsque le pantalon est pris dans la chaise, soit en se levant, on tire la chaise avec, et ça fait quand même un drôle d'effet. Je ne me rappelais plus que c'était celle-ci, il faudra que je la marque, au fer rouge. Ou alors, on déchire son pantalon. Les deux incidents me sont arrivés. C'est la raison pour laquelle je me méfie désormais de cet objet qui devrait être chassé de cette enceinte. Je reviens à mes préfaces de dictionnaire. Oui, parce qu'après, quand le fond de pantalon est déchiré, je peux plus me tourner au tableau pour écrire quelque chose, évidemment. Alors, je reviens à mes dictionnaires. Donc, cet article de 1991 de Georges Serfati, intitulé « Pragmatique du langage et lexicographie », dont je vous donnerai la référence par ailleurs si ça vous intéresse, mais enfin bon. Cet article examine la double postulation du rôle du dictionnaire et du dictionnaire de langue en particulier à travers six préfaces d'ouvrages, non pas du 19e siècle, mais d'ouvrages du 20e siècle, à savoir le dictionnaire du français contemporain, le dictionnaire du français de chez Hachette, le grand Robert, le petit Robert, le grand Larousse de la langue française, sept volumes, et le trésor de la langue française. C'est donc dans ces six ouvrages que l'auteur examine la fonction de la préface dans un certain nombre de dictionnaires contemporains, et il écrit « À un degré ou à un autre, toutes les préfaces passées en revue expriment pour le dictionnaire une double ambition, une ambition théorique et pratique. L'ambition théorique, rendre compte, l'ambition théorique de la préface, rendre compte de l'usage linguistique, et l'ambition pratique, celle de faciliter l'apprentissage de la langue. J'ajouterai que lorsqu'on s'intéresse aux dictionnaires anciens, c'est-à-dire aux dictionnaires qui relèvent d'un état de langue et d'un état de société qui n'est plus le nôtre aujourd'hui, s'ajoute à cette fonction théorique et pratique une fonction en quelque sorte idéologique, une fonction idéologique, rétrospective, dans la mesure où les préfaces, les préfaces du dictionnaire ont souvent pour objet de fonder un rapport que vous comprendrez assez bien si vous pensez à des objets tels que le dictionnaire de l'Académie française ou à d'autres objets fortement institutionnalisés de cette nature-là, de fonder un rapport entre la légitimité politico-sociale, si je puis dire, la légitimité politico-sociale de l'auteur ou des auteurs, s'il s'agit d'une œuvre collective, fonder un rapport entre cette légitimité politico-sociale, si l'on prend la parole, c'est parce que l'on est légitimé, et si l'on est légitime, c'est que l'on a un droit de parole légitime, et d'autre part, la légitimité linguistique de l'objet. Car contrairement à ce que l'on pense, le dictionnaire ne dit pas la vérité. Il réfléchit une réalité. On n'ouvre pas un dictionnaire pour y chercher le sens d'un mot. On ouvre un dictionnaire pour chercher les conditions d'emploi qui font que tel mot, dans telle situation, possède tel sens et prend telle valeur. Autrement dit, le dictionnaire n'est pas un distributeur automatique de sens, comme il existe des distributeurs automatiques de boissons. On ne met pas 5 francs ou 10 francs et on obtient une canette de 7-Up ou de Coca-Cola ou une barre de Mars. Mais on ouvre le dictionnaire pour effectuer soi-même un travail par rapport aux indications du dictionnaire. Quand on a de jeunes enfants dans sa classe, le meilleur conseil que l'on puisse leur donner, c'est précisément de ne pas utiliser le dictionnaire comme un réservoir de sens tout fait. Donc, les préfaces ont souvent pour fonction de fonder ce rapport entre la légitimité politico-sociale de l'auteur et d'autre part la légitimité linguistique de l'objet. la préface de dictionnaire en tant que genre, si je puis dire, la préface de dictionnaire en tant que genre littéraire est donc affectée d'une fonction plurielle, théorique, pratique, à l'époque contemporaine essentiellement, et idéologique lorsque l'on s'intéresse à des dictionnaires de nature historique. On ne peut évidemment pas être sûr que les préfaces soient le reflet, constituent le reflet fidèle du contenu du dictionnaire. Les préfaces présentent une image du dictionnaire, une image rêvée, une image ambitionnée par les auteurs, par les rédacteurs. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est donc donner à lire cette image rêvée, ambitionnée, idéale du dictionnaire, pour ensuite comparer cette image avec le fonctionnement réel du dictionnaire et les informations que le dictionnaire met à notre disposition. Alors, il s'impose là un certain nombre de remarques préliminaires qui sont en quelque sorte des remarques de nature philologique. On remarque que le discours d'escorte, comme son nom l'indique, que la préface est généralement physiquement séparée du corps du dictionnaire. Vous avez pu vous apercevoir en consultant en consultant rapidement l'édition de 1743 du dictionnaire de Trévoux, il y a 15 jours, déposée à la bibliothèque, vous avez pu vous rendre compte que le discours d'escorte de cette édition du dictionnaire de Trévoux est particulièrement complexe. Il y a une approbation, un privilège et une préface. Hein? Il y a donc trois éléments. Bon, je réduis le discours d'escorte ici au seul rôle des préfaces, mais vous voyez que la préface, en tout cas ici, est distincte physiquement du corps du dictionnaire. Les dictionnaires deviennent peu à peu des ouvrages faits pour être consultés et non pas insultés. Des ouvrages faits pour être consultés et non pas pour être lus. Alors que la préface, elle, est un texte clos, un texte visiblement achevé et non moins visiblement destiné en quelque sorte à être lu dans une continuité. Le fait d'ailleurs que la préface soit physiquement disjointe du corps principal du dictionnaire permet une lecture totalement dissociée de la préface et du dictionnaire. Deuxième remarque. La préface constitue un texte dans lequel s'inscrit fortement un besoin de communication sociale, Et l'on peut se poser par conséquent ici la question de savoir quel type de discours social la préface développe par rapport, social et linguistique par rapport au contenu du dictionnaire lui-même. On constate en général que les lexicographes ne sont pas des grammairiens. Et que réciproquement, les grammairiens ne sont pas des lexicographes. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté des auteurs de grammaire, et de l'autre côté, des auteurs de dictionnaire. Et que rarement, auteur de grammaire et auteur de dictionnaire sont les mêmes. Larousse, Becherel, il y a en effet quelque chose qui sépare essentiellement le dictionnaire de la grammaire, et ce quelque chose, c'est l'ordre de présentation alphabétique des éléments étudiés. Les dictionnaires proposent une collection de mots, mais une collection fragmentée. Une collection fragmentée, une collection qui est disposée selon l'ordre arbitraire de l'alphabet. Vous connaissez peut-être ce poème de Queneau, dans le recueil qui s'intitule « Le chien à la mandoline ». Un poème qui s'intitule « La chair chaude des mots ». Poème dans lequel Queneau déplore l'existence de ces grands alphas décédés, comme il dit lui-même, alphas décédés, que sont les dictionnaires. Donc, une collection de mots fragmentés, disposés selon l'ordre arbitraire de l'alphabet. Je rappelle ici, pour mémoire, que cet ordre alphabétique des mots n'a pas toujours été l'ordre de présentation, songez à la première édition du dictionnaire de l'Académie, où l'ordre de présentation des mots n'est pas l'ordre alphabétique des mots, mais l'ordre alphabétique des racines. Ce qui complique la consultation, parce que si l'on ne connaît pas la racine, on ne peut pas retrouver aisément le mot. Et cette collection de mots, alphabétiquement rangés, ne répond donc pas directement à une exigence de nature linguistique. Ce qui ne va pas s'en poser un problème, particulier, lorsqu'il s'agit d'un dictionnaire de langue. Car comment un dictionnaire de langue pourrait-il ne pas être un ouvrage linguistique ? Le dictionnaire de langue devient le témoin, si je puis dire, presque involontaire, d'un débat de nature grammaticale. Et ce débat de nature grammaticale est un débat que l'on trouve abordé dans les préfaces. À l'époque contemporaine, la préface ajoute à ces considérations de nature théorique, pratique, ajoute très souvent des considérations de nature économique. Je veux parler ici de ce que l'on pourrait nommer les impératifs de commercialisation, des dictionnaires qui deviennent des prétextes derrière lesquels s'abritent souvent dans leur préface les auteurs de dictionnaires. Il n'y a pas très longtemps, un débat juridique dont vous avez peut-être entendu parler à propos du maxidico. Non, vous rechercherez dans les ouvrages, dans les organes de presse, ce qui en a été dit. Maxidico, qui est un dictionnaire pillé, mais qui avait été repris et publié moins cher que l'original par Maxilivre. D'accord ? Et cette société qui vend beaucoup de livres d'art et autres en solde. et qui s'était dit que puisque le dictionnaire était un objet commercial qui était porteur, il était peut-être possible de récupérer quelque part un dictionnaire banal, relativement banal, de le rebaptiser Maxilicou et de le vendre sous sa propre étiquette. Comme il existe des lessives sous plusieurs marques, comme il existe. Hein, d'accord ? Bon. Un spécialiste de la question, Pierre Corbin, mon collègue Pierre Corbin de Lille, écrivait ceci en 1985, qui reste d'actualité, non rarement, des lexicographes déplorent que soient adressées aux dictionnaires des critiques émanant de linguistes insoucieux des contraintes commerciales qui régissent l'industrie lexicographique. Ce rempart des nécessités pratiques, qui est censé garantir une métalexicographie supposée réaliste, en fait juge et partie, paravent de papier, il n'y a que l'embarras du choix en matière d'insuffisance lexicographique, en aucune façon imputable aux exigences éditorial. Et l'idée donc qu'il faut retenir, c'est que le dictionnaire est évidemment un objet qui doit être vendu. Un objet qui doit être vendu, que la présentation, la constitution du dictionnaire, j'en ai déjà dit un mot, je crois, il y a 15 jours, notamment lorsque les dictionnaires subissent des mises à jour. Je pense plus particulièrement au Petit Larousse, hein, qui est remis à jour chaque année, si je puis dire, il est évident que lorsque l'on ajoute des entrées, lorsqu'on modifie des choses à l'intérieur d'une page de dictionnaire, on ne va pas ressaisir, on ne va pas reprendre l'intégralité du dictionnaire. Pour que de nouveaux éléments entrent, il faut que de vieux éléments, d'anciens éléments sortent. Pour qu'une page ne soit pas trop modifiée, il faut qu'une formulation qui était un peu longue soit abrégée. C'est la raison pour laquelle il y a là un impératif qui est de nature extra-linguistique, qui se surajoute aux contraintes linguistiques que l'on connaît. Et bien, quelquefois, les préfaces de dictionnaires portent la trace. Au XIXe siècle, on commence à aborder ces questions-là. Car le dictionnaire, au XIXe siècle, est un objet qui ne dissimule aucunement sa fonction mercantile. Alors, je m'intéresse plus particulièrement au dictionnaire, parce que, comme vous le savez, au dictionnaire du XIXe siècle, parce que c'est le siècle dont je parle et d'où je viens, et d'où je suis, et où je reste. Voilà. Et puis parce que ce 19e siècle a été caractérisé par Méchonique, comme par Pierre Larousse, bien avant lui, comme étant le siècle des dictionnaires. Or, si le XIXe siècle est effectivement le siècle des dictionnaires, c'est-à-dire le siècle au cours duquel on a vu publier le plus grand nombre de dictionnaires de forme et de nature variées, dictionnaire des jeux, dictionnaire de langue, dictionnaire d'hypiatrie, etc. Le XIXe siècle est aussi probablement jusqu'à maintenant, le siècle le plus délaissé, du point de vue des études métalexicographiques. Sniff. On connaît les dictionnaires du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. On connaît bien les dictionnaires du XXe siècle. Mais les dictionnaires du XIXe siècle, on sait qu'ils ont existé. On les cite, puis c'est tout. Et c'est bien triste. C'est bien triste. Il y a, dans les études de métalexicographie, jusqu'à maintenant à peu près, une sorte de, comment dirais-je, d'espace bibliographique vide. D'espace bibliographique vide. Et la nature, qui est en moi, a horreur du vide. Il faut donc le combler. Littré, évidemment, a fait l'objet de diverses études. Larousse commence à faire l'objet de quelques remarques. Mais en fait, vous avez vu que rien qu'en ce qui concerne des dictionnaires monolingues français, on a réuni ici une liste de 417 titres. Il y en aurait beaucoup plus encore, et si l'on ne se limitait pas au dictionnaire monolingue et uniquement au dictionnaire de langue, on arriverait facilement à un total de plus de 2500 exemplaires de dictionnaires pour la période allant en gros de 1798 à 1900. Vous vous rendez compte, par conséquent, qu'il y a de l'espace pour des études précises, des études nombreuses, des études circonstanciées. Malheureusement, l'espace bibliographique auquel je fais allusion est vide. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les travaux auxquels vous vous livrez sont d'une importance scientifique indéniable et absolument nécessaire. On est bien obligé de commencer à s'intéresser à ce genre de choses.